Pop, popienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Il va être question d'art aujourd'hui dans Pop, pop, pop avec une jeune femme, prune nourrie, au talent éclairant. Et j'ouvrirai cette émission en reprenant le titre d'un livre d'un de mes critiques d'art préférés, le regretté Daniel Arras. On n'y voit rien. Oui, on n'y voit rien est un livre que je conseille depuis toujours pour essayer d'apprendre à regarder tout ce qui nous échappe à première vue dans un tableau parce que oui, voir, ça s'apprend, comme écouter, comme toucher, comme parler. Maintenant, que se passe-t-il quand une artiste plasticienne qui a frôlé la mort, décide d'aller voir, si je puis dire, ce qui se passe du côté des ténèbres, c'est-à-dire à sculpter des visages sans voir les modèles qu'elle a sous les yeux, modèles eux-mêmes non-voyants, pour ensuite exposer ses œuvres, toujours sans les avoir vues, mais dans le noir absolu, le public ayant seulement le droit de les voir, mais seulement de les toucher. Ça a l'air bizarre, dit comme ça, et pourtant, je vous assure que c'est une des expériences les plus incroyables qui soit. Pour le coup, Daniel Arras a bien raison, on n'y voit rien. En revanche, ce qu'on y découvre est absolument lumineux et troublant, au-delà du regard. Expérience sensorielle, installation artistique, interrogation à la fois brutale et douce sur le monde tel qu'il est et le monde tel que nous le percevons. Croyez-moi, ou allez vous faire cuire une omelette au girolles, on ne ressort pas tout à fait intact de cette histoire. Allons donc y voir, si je puis dire de plus près, si vous le voulez bien, et partons à la découverte de cette jeune et hyper talentueuse artiste dont tout le travail éveille un écho qui n'a pas fini de résonner. Ouvrez grandes vos oreilles, fermez les yeux, sauf si vous êtes au volant, vous écoutez la radio et l'émission d'aujourd'hui a pour sous-titre « Les prunes comptent définitivement pas pour des brunes ». Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Bonjour, Prune Nourrie.
Bonjour, Antoine de Caunes.
Alors, j'explique un peu la situation. Voilà, nous sommes dans un studio où la lumière a été réduite au strict minimum. J'ai un petit stylo-lampe avec lequel j'ai pu lire mon introduction, que je ferme. Voilà. Je vais maintenant mettre un masque sur mes yeux. Vous avez vous-même un masque pour que le noir soit tout à fait complet, d'accord? Allez-y, mettez-le.
Un masque à paillettes.
Voilà, un petit masque à paillettes. Quel effet ça vous fait de savoir que personne, même pas moi, ne vous voit, mais qu'en revanche, des centaines de milliers de gens vous écoutent?
Bah, en fait, on a tendance à oublier effectivement qu'on a tant d'autres sens et qu'on compte tellement sur les yeux. Et c'est vrai que cette expérience que j'ai faite pour sculpter des personnes non-voyantes, ça m'a appris à regarder avec d'autres sens et à les développer.
Là, vous ne me voyez pas, on est d'accord?
Je ne vous vois pas du tout, non. J'ai cette sorte de masque sur les yeux.
Ma voix dans les oreilles. Ce qui est un peu comme dans votre exposition où la voix a une importance énorme. Dites-moi quel effet ma voix a sur vous? Enfin, quelle impression elle vous fait? Quel type d'infos elle vous donne sur moi?
Alors, c'est une voix grave, une voix enveloppante. Oui, oui. Je pourrais presque m'endormir, mais je ne vais pas vous faire ça.
Ce serait un affront.
Et je sens une petite excitation. Enfin, vous avez quelque chose d'énergique dedans, et ça, c'est sympa.
Qu'est-ce que vous ressentez d'une manière générale dans le noir?
Le noir, c'est quelque chose qui me déstabilise. C'est j'aime bien avoir toujours un petit ray de lumière. C'est pour ça que je me suis fait un peu violence à travers ce projet. Et c'est surtout que en fait je me rends compte que mes mains sont la continuité de mes yeux en tant que sculpteur, mais que j'ai vraiment besoin de mes yeux pour sculpter, pour faire ce que je fais. Ouais. Et que c'est pas seulement la sculpture, là en l'occurrence, c'était effectivement rencontrer des gens que par le toucher, rencontrer des gens que par leur histoire, par leur énergie. Et c'est vrai que ça m'a appris à regarder différemment.
On va revenir là-dessus. Pour l'instant, moi aussi, je suis dans le noir complet. J'essaie juste de repérer mon micro. Voilà, il est là. Voilà, je m'approche même un petit peu de mon micro. On va continuer l'émission, mais là on va remettre un petit peu de lumière si vous le voulez bien, Prune. On va expliquer tout votre processus créatif et en attendant je vous propose quelques notes de musique. C'est un groupe qui s'appelait Blind Faith, Can't Find My Way Home, cette circonstance. Thank you. Blind Faith, Can't Find My Way Home, c'était un groupe avec Stevie Winwood, Eric Clapton, Ginger Baker. C'est un groupe incroyable de la fin des années 60, début des années 70. Enfin bon, Prune Nourrie, vous présentez en ce moment même votre projet Phoenix jusqu'au 23 octobre à la Galerie Templon à Paris. Et nous allons en parler dans un instant avec Charline Roux, mais avant d'en parler avec elle, rembobinons un petit peu votre parcours. Vous êtes plasticienne et sculptrice, pourquoi avez-vous choisi au départ, de travailler avec vos mains de manière aussi physique et concrète?
Oula. C'est une réponse un petit peu bateau, mais c'est vrai que ça s'est imposé. À moi, c'était par le manque, parce que j'ai commencé à travailler en faisant beaucoup de dessins et en me rendant compte qu'en fait... la base pour moi, ma colonne vertébrale, c'était la sculpture. Et donc ce manque...
La matière directement.
La matière, hein, ouais, directement.
Très charnel.
Et ouais, sensuel carrément. Ouais. Et la terre s'est aussi imposée, même si à travers la terre, on peut ensuite mouler et à travers le moulage faire tellement de matières différentes. Mmh. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment la collaboration avec les artisans aussi. Mmh. Et un peu intuitivement, je me suis retrouvée à décider de faire une école d'artisans, l'école Boulle, pour apprendre le savoir-faire. Et c'était aussi parce que c'était seulement 3 ans et que je voulais apprendre ensuite sur le terrain. Et en fait, ça m'a appris le plaisir de collaborer avec des artisans et cette partie aussi de matériaux que je continue à continuellement chercher et pousser depuis.
Mais il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, Prune Nourrie, parce qu'avec avec vos projets, vous avez soulevé plein de questions éthiques, le déséquilibre entre les sexes, les dérives scientifiques, le corps, la maladie, la guérison. Et vous dites qu'en tant qu'artiste, vous avez une grande liberté, mais une grande responsabilité. C'est-à-dire que la liberté donne du pouvoir, mais le pouvoir implique des responsabilités, comme disaient très bien Spider-Man et Churchill.
Mais l'idée, c'est aussi comment est-ce que, avant chaque projet, du coup, je me base sur les recherches de spécialistes, parce qu'au final, je suis spécialisée en rien, de la même manière que pour les matériaux, puisque je vais continuellement chercher plus loin. Bon, je travaille avec des spécialistes de tel ou tel matériau, le pyrex à Murano, le bronze au fin fond de l'Auvergne, etc., etc. Et c'est la même chose pour les sujets sur lesquels je travaille. Je pars rencontrer des sociologues, des anthropologues, des gynécologues en fonction du projet et de la recherche que j'entreprends pour créer des fondations, des racines à ce projet.
Mais des sujets hautement contemporains et à forte résonance, ça veut dire que la place de l'artiste dans le monde, c'est une forme d'engagement?
Ça dépend, je pense qu'il y a vraiment, il y a zéro case, les artistes ils détestent dès qu'on les met dans un tiroir. Et c'est ça le concept, c'est qu'à chaque artiste un processus différent. Moi je fais parce que ce qui me parle, et ce qui me parle c'est cette recherche constante d'équilibre, donc je parle du déséquilibre aussi dans cette recherche d'équilibre.
Alors je résume un peu l'histoire. Dans les rues de... Enfin, je la résume, elle est longue, hein, mais dans les rues de New Delhi, par exemple, vous avez placé des statues hybrides entre petites filles et vaches pour bousculer les idées préconçues autour de la vache sacrée et du statut des jeunes femmes. Dans les rues de New York, vous avez transformé un food truck en sperme bar pour faire réfléchir les passants de la 5e avenue sur le rôle des banques de sperme et le mythe de l'enfant génétiquement parfait. Dans un coin gardé secret en Chine, vous avez enterré des terracotta daughters, soit une armée de fillettes en terre cuite inspirées des guerrières de Xian qui seront déterrées en 2030, année symboliquement forte car identifiée par les sociologues chinois comme l'année où le déséquilibre entre hommes et femmes en Chine sera à son apogée. Quel est le dénominateur commun entre tous ces travaux?
Je pense que c'est vraiment cette notion d'équilibre. C'est le fait qu'on est constamment emmené. C'est vraiment Star Wars. Il y a la lumière et cette obscurité vers laquelle on est tous tentés, on est tous amenés. Et on est constamment dans une recherche d'équilibre à un niveau mini-humain comme à un niveau plus large, environnemental. Et un impact de quelque chose peut avoir de quelque chose à une toute petite échelle à une époque donnée, comme par exemple dans les années 80, l'apparition des échographies, en fait, a un impact complètement différent puisque ça a été détourné pour sélectionner le sexe. Et avorter les filles, et que du coup ça a amené un déséquilibre énorme qui continue de grandir, qui ne cesse de grandir et qui impacte forcément l'échelle mondiale, puisque la Chine et l'Inde, où ça se passe, sont un tiers de la population mondiale.
Ouais. Votre dernière œuvre, avant celle dont nous allons parler aujourd'hui, cette fameuse exposition dans le noir, votre dernière œuvre en date s'appelait L'Amazone érogène. C'est une œuvre éphémère que vous aviez installée au Bon Marché à Paris, à l'occasion d'une carte blanche. Je vous en laisse nous en dire deux mots.
Alors, c'était 888 flèches, qui étaient un peu plus grandes que des vraies flèches, presque des javelots, qui étaient toutes dirigées vers une cible de 4 mètres de diamètre, en bois, avec le centre comme un téton, donc en volume quand on la regardait de profil, et l'arrière comme une coupe d'arbre. Et on peut le voir comme une nuée de spermatozoïdes vers un ovule, on peut aussi le voir comme l'attaque de la maladie vers un sein.
Mmh. Cette œuvre fait directement écho à votre livre, hein, aux Amazones. C'est un titre qui désigne les femmes atteintes d'un cancer. Et c'est un livre qui sort mercredi prochain aux éditions Marabout, qui raconte votre propre histoire, votre propre combat contre le cancer du sein. Avec l'envie de déclencher une étincelle d'espoir et de combativité auprès de celles et de ceux qui doivent affronter l'épreuve de la maladie, dites-vous.
Oui, en fait, c'est une histoire bien trop banale, puisque une femme sur huit est touchée. Et de cette banalité, justement, je me suis dit que il fallait peut-être pas que je passe à travers cette maladie sans être utile à ma manière. Et pour moi, c'est à travers mon art. Et j'en ai fait un film où j'ai tourné la caméra vers moi. C'est un film qui s'appelle Serendipity, qui est sorti en 2018. Et c'était très désagréable de tourner la caméra vers moi parce que normalement, j'étais plutôt derrière. Mais en fait, c'était une idée de me dire action à moi-même et du coup d'être proactive dans la maladie. Sauf que suite à ce film, qui est quand même un film d'artiste assez contemplatif, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose de peut-être plus pratique et surtout qu'on peut amener avec soi. Et quand on est patient, il faut être patient dans les salles d'attente, on attend. Et le fait d'avoir un livre qu'on peut transporter et qu'on peut feuilleter, où on peut retrouver des choses, on peut annoter, je trouvais ça important. Et surtout de pouvoir avoir la voix d'experts sur des sujets qui, moi, m'avaient vraiment aidé et que j'avais appris au fur et à mesure de ces années. Et je pense que ça m'a aidé aussi de me dire, à travers ce temps-là, que à la fois mon parcours de malade me servait aussi à documenter pour pouvoir, à un moment donné, passer la main et aider d'autres femmes.
Serendipity, c'était ce documentaire absolument magnifique, hein, coproduit par Angelina Jolie. Et écoutez ce que donnait la bande-annonce.
Started to beat super, super fast. I had just realized I could die. I lost my body on the way. I definitely think everything is connected, and there is no coincidence in a way.
C'est vous qui parlez, tout est connecté, tout est lié dans cette histoire. Vous dites que la serendipité, c'est la rencontre du hasard et de l'intuition, la capacité à s'écouter pour tirer le meilleur de l'inconnu et de l'imprévu. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette notion que beaucoup découvrent?
Alors déjà, je dois dire que je parle anglais dans ce film, tout simplement parce que j'habite à New York depuis 10 ans et aussi parce que mon ami le plus proche, sans qui je n'aurais pas fait ce film, Alastair Siddons, est londonien et a le mauvais goût de ne pas parler français. Et que c'est vraiment lui qui m'a amené dans toutes ces interviews à sortir tout ce que j'avais à dire de mes tripes. Et la serendipity, qui a justement un mot beaucoup plus joli en anglais qu'en français, on change juste une lettre et ça change tout, c'est pour moi vraiment la rencontre entre le hasard et l'intuition. Et c'est aussi un point de contact entre le monde de la science et le monde de l'art. Comment est-ce qu'au final, scientifique comme artiste, on est des chercheurs, on a ce même sens de l'abstraction. Et que dans cette recherche, en fait, le hasard parfois nous amène des choses sur notre chemin et que c'est notre intuition qui va nous dire s'il faut l'attraper au vol ou pas et quoi en faire.
Prune Nourrie, est-ce que vous avez l'impression que dans votre travail, il y a un avant et un après Serendipity, comme si vous aviez replacé la subjectivité au centre de votre travail?
Oui, bizarrement, je pense que j'avais vraiment cette vision de j'aurais adoré être anthropologue, sociologue. Au final, mon métier m'amène à travailler avec des gens qui ont cette spécialité. Mais je pense que du coup, j'avais cette idée que je travaillais d'une manière relativement objective sur je documentais mes sujets, sur mes recherches. Et en fait, effectivement, le fait d'avoir cette tumeur, cette matière en moi à travailler, ça m'a amené aussi à réaliser qu'un artiste, ça peut que être subjectif.
Et il y a ce très beau livre qui arrive donc après-demain à Amazon, préfacé aussi par Angelina Jolie, et qui sort chez Marabout.
Voilà. Oui, et surtout on en distribue 20 000 gratuitement à travers, grâce aux équipes des hôpitaux, notamment les ERI, les assistantes sociales des hôpitaux, et ça vraiment pour être sûr que ça aille aux bonnes personnes.
Très bien. Ça, ce sera pour mercredi prochain. Prune Nourrie, Charline Roux sort tout juste de votre expo Phoenix. Elle est actuellement sur une mototaxi. Arrivera, selon mes calculs, juste après If I Ever Feel Better. C'est un morceau de Phoenix. Pas l'expo, hein, le groupe. They say an end can be a start. Feels like a barber, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground. And the sickle is silent in my heart. There's one that strives a hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. Feels like a barbarian still alive. I'm losing my balance on the tightrope. C'est sur ce son de Phoenix que Charline Roux vient de faire son entrée, avec encore sa petite Charlotte de mototaxi sur la tête. Bonjour Charline.
Même pas décoiffée, vous avez vu.
Même incroyable. Pas. Charline, vous venez donc de voir le projet Phoenix. Comment avez-vous vécu cette expérience? Car oui, c'en est une.
Et ben, vous parliez de déséquilibre, Prune. C'est exactement ça qu'on ressent en entrant, en tout cas dans la première pièce. Une forme de... C'est déstabilisant, en fait, forcément. Et moi, j'ai fait l'expérience avec mon enfant, qui a 11 ans et demi, et qui s'y est... pris de manière plus habile que moi, plus rapidement. C'est-à-dire ce déséquilibre-là s'efface presque en fonction de l'âge et du... Mais ouais, c'est assez fascinant, je dois dire.
Bien. Alors, résumez-nous ce qui s'y passe.
Donc, pour ce projet Phénix, vous avez invité 8 personnes déficientes visuelles à poser dans votre atelier, réaliser leurs bustes, les yeux bandés, donc sans jamais les voir, seulement par le toucher, et en écoutant leurs histoires. Les visiteurs de l'exposition sont eux aussi, donc plongés dans le noir, invités grâce à un parcours soigneusement balisé, à découvrir ces bustes par le toucher. Ce projet Phénix, est-ce que vous l'avez aussi conçu comme l'anti-musée, c'est-à-dire cet endroit dans lequel toucher, c'est péché quand même?
Oui, aussi parce que je pense qu'à chaque fois que je faisais une exposition, notamment les Terracotta d'Auteurs que j'ai fait voyager à travers le monde, c'était quand même des sculptures taille humaine en terre cuite, donc fragile. Et l'idée que quand j'arrivais dans un musée, on me disait « Ouh là là, pour les assurances, etc., il va falloir mettre des carrés, etc., des cordes autour et que les gens ne puissent pas rentrer. » Et moi, c'était impensable pour moi parce qu'il fallait que les gens puissent se balader au milieu de l'armée comme autour d'une forêt, qu'ils puissent faire le lien entre tel ou tel visage. Et s'ils touchaient, s'il y avait de la casse, bon bah c'était ma responsabilité, ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai fait retoucher par des personnes spécialisées et ça fait comme des cicatrices, ça fait partie de l'histoire de ces sculptures et de toute manière elles sont enfouies, personne ne les voit, elles sont dans le noir et du coup voilà c'est important pour moi cet aspect de toucher parce que je suis sculpteur et parce que les mains clairement sont la continuité de mes yeux, je ne peux pas sculpter qu'avec mes yeux mais au-delà de ça je ne peux pas voir qu'avec mes yeux, je suis toujours obligée de repasser par-dessus en touchant, en effleurant et c'est ce qui m'a fait flipper aussi au moment des traitements du cancer puisque en fait la chimiothérapie affecte les nerfs du bout des doigts et que j'ai fait appel à l'acupuncture pour pouvoir prévenir ça. Et est-ce que j'ai un peu perdu, je ne sais pas, mais en tout cas là je me suis fait un bon challenge pour le vérifier.
Et dans cette exposition Phénix, il n'y a pas d'audio guide classique comme dans les musées, vous savez ces audio guides là.
Devant vous se trouve la Joconde. Caractérisée par son regard énigmatique, c'est sans nul doute le tableau le plus célèbre au monde. Une vitre blindée vous sépare de l'œuvre de Léonard de Vinci pour éviter que vous ne posiez vos doigts gras dessus.
Bon, alors, je suis pas tout à fait sûr que ce soit l'audio guide
du Louvre, non,
du Louvre, enfin, bref. Le projet Phénix n'est donc pas une exposition à voir, mais à ressentir. Comment l'idée est-elle née?
Aucune idée. En 2014, quand j'ai présenté l'armée à New York, que j'ai fait ce tour du monde avec différents stops jusqu'en Chine, là, j'ai rencontré sur mon parcours une femme spécialisée sur la médiation dans les musées pour les personnes non-voyantes. Et je lui ai demandé de me faire toute la médiation de l'expo, qu'on ait tous les textes en braille, en plus gros caractères pour les malvoyants. Et aussi, on a fait venir des groupes de non-voyants. Et pour moi, ça a été exceptionnel parce que d'avoir tout d'un coup des gens qui n'étaient pas juste à apprécier, on va dire, le visuel de mes sculptures, mais qui le découvraient à travers leurs mains et qui découvraient des choses d'une manière complètement autre. C'était une nouvelle manière d'apprendre et de découvrir mes sculptures moi-même. Et du coup, je me suis promis dans chaque expo de faire, si possible, cet accès aux personnes non-voyantes. Et du coup, ça a été le cas il y a 2 ans pour Catharsis, qui était une exposition à la Galerie Templon, sur la question du handicap, des ex-voto, de la guérison. Et j'avais collaboré avec Linja, avec une archéologue spécialisée dans le handicap aussi, pour le travail sur les ex-voto, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve, des objets rituels qu'on retrouve aujourd'hui, mais qu'on retrouve aussi il y a 2000 ans dans tellement de matériaux différents. Et mon expo était dans plein de matériaux comme ça, qu'on pouvait toucher. Et du coup, c'était des groupes de jeunes de l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles, qui venaient et qui découvraient.
8 sujets, hommes et femmes, que vous n'avez pas vus et nous non plus, de fait. Qui sont-ils et pourquoi les avoir choisis, eux?
Alors, j'ai pas voulu vraiment les choisir. J'ai voulu faire justement du bouche à oreille. Donc, j'ai commencé, le tout premier, c'est une collectionneur de longue date qui m'a dit, mais mon kiné est extraordinaire, il est aveugle, il voit à travers la peau. Et du coup, je l'appelle, David. Je n'entends que sa voix m'intrigue, me plaît. Et on décide de prendre rendez-vous, 2 semaines plus tard pour notre première session. Il accepte de prendre le risque. Il ne me connaît pas. Il sait pas très bien ce que ça veut dire. Et il saute le pas. Et Un jour plus tard, j'ai mon fils de 6 mois qui me met le doigt dans l'œil avec son ongle très mal coupé, comme à son habitude, et grâce
et
à moi.
Et aveugle 3 jours.
Et je deviens aveugle pendant 4 jours. Et c'était la dépendance la pire, rien à voir avec la maladie, la pire que j'ai jamais connue. Et j'étais presque en dépression. Et en fait, de me retrouver là-dedans, je me suis dit, mais attends, il y a peut-être un truc, il faut que j'arrête de partir sur des projets compliqués. Peut-être la prochaine fois, il faut que je travaille, je ne sais pas, sur les Bahamas, la Guimauve, mais un truc sympa, quoi. Et du coup, ça m'a plongée dans le noir, mais c'est aussi le jour où j'ai revu. Je me suis rendu compte que moi, j'avais la chance de pouvoir mettre un bandeau, enlever le bandeau, de pouvoir mettre un masque, comme tout à l'heure, et de pouvoir enlever le masque, mais que c'est pas le cas de tellement de gens, et surtout de ces 8 modèles qui ont pris le risque de travailler avec moi.
Coupez les ongles à vos enfants de 6 mois, quand même.
Le portrait est par essence un exercice intime, mais là, vous avez donné un autre sens au mot intimité. Vous dites d'habitude je sculpte à 70% avec les yeux, à 30% avec les mains. Cette fois j'étais à 70% avec les mains, 30% avec l'oreille. Est-ce que leurs histoires ont aussi nourri les sculptures, enfin vos portraits, la manière de les envisager?
Nourri, comme Prune.
Énormément. J'aurais pas dû donner des pourcentages parce que c'est nul les pourcentages là-dessus, mais ça représente pas vraiment la réalité. Mais énormément. C'est à la fois leur histoire, mais aussi ce sixième sens que eux ont et qui est une sorte d'énergie qui passe à travers l'air. Comment le dire? C'est totalement indescriptible. Et aussi, je pense, à poser leurs mains sur la sculpture à la fin, aussi sur mon visage quand ils me le demandaient, parce que moi c'est ce que je faisais. Et puis à un moment donné, s'ils souhaitaient connaître aussi mes traits, c'était un échange. Et pareil sur la sculpture, venir à la fin de chaque session découvrir et me dire si je m'étais trompée à certains endroits aussi, parce que c'était encore une fois un échange.
Ce qu'il y a de tout à fait particulier quand même, Prune Nourrie, dans cette histoire, c'est que vous n'avez toujours pas vu vos propres œuvres.
Non.
Vous comptez le faire ou pas?
Non, je compte pas le faire, sauf accident. C'est-à-dire que je ne veux pas décider de les voir. Maintenant, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Un jour, elles seront plus à moi, j'espère. C'est aussi ça, l'idée qu'elles bougent, qu'elles se transfèrent, qu'elles vivent, qu'elles soient touchées et non vues. Et du coup, la chose aussi intéressante, c'est que j'expose ça non pas dans un musée, mais dans une galerie. Une galerie, c'est commercial, et que là, même les collectionneurs ni les galeristes ne peuvent voir les œuvres, donc on ne sait pas ce qu'on présente.
J'adore l'idée.
Les séances de pose font l'objet d'un film co-réalisé par Vincent Lorca. C'est d'ailleurs la seule partie éclairée de l'exposition.
Pour moi, serrer la main de quelqu'un, c'est très, très important.
Il va se mettre ma main sur mon épaule.
Oui. Une poignée de main me raconte beaucoup de choses.
Vous êtes dans le noir total?
Je suis, voilà, j'ai un bandeau sur les yeux.
D'accord.
Si vous suivez la table, vous allez sentir une petite estrade sous vos pieds, attention. D'accord. Sur cette estrade, il y a une chaise. D'accord. Et c'est sur celle-ci que vous allez pouvoir vous asseoir.
C'est un petit film très important au milieu de la
visite. Oui, absolument. Ouais. Et alors, Prune Nourrie, est-ce que vous avez aussi l'impression que par ce modus operandi artistique, vous avez recueilli des paroles que vous n'auriez pas entendues dans un cadre plus classique?
Alors, c'était une vraie psychothérapie, mais dans les deux sens. Parfois, c'était aussi une psychothérapie pour moi. Et surtout, à chaque fois, c'est des personnalités différentes, puisque sur les 8 modèles, on avait des âges très différents, qui allaient de 27 ans jusqu'à plus de 80 ans. Et du coup, des personnalités qui parfois parlaient peu, d'autres personnalités qui, au contraire, m'ont raconté tout le déroulé de leur vie, et par ordre chronologique, donc c'était fascinant. Et l'important, c'était que ce soit une écoute active de ma part. Et ça, c'était très différent de la manière dont je sculpte habituellement. Je me mets de la musique sur les oreilles ou des émissions de radio, ou des podcasts, et je plonge dans mon monde. Et là, par contre, je devais être dans leur monde et avoir des réactions face à ce qu'ils me racontaient, bien sûr, et écouter, mais profondément. Et ça a été vraiment, je pense, aussi une des difficultés, mais passionnantes, à surmonter, puisque ça me demandait une double concentration.
Prune Nourrie, le phénix, c'est bien sûr la maison abordable de chez Bouygues, mais c'est surtout cet oiseau de la mythologie grecque qui renaît de ses cendres après s'être fait cramer les ailes.
Oui, c'est pas rien. Vous avez modelé des bustes à l'argile, vous les avez moulés et cuits selon une technique ancestrale japonaise. En quoi consiste-t-elle ?
Alors, la technique du raku, c'est une technique où en fait on fait cuire en deux temps à très haute température de la terre. Et une fois qu'elle est incandescente, rouge, au sortir du four, on la plonge dans de la cendre de bois. Et c'est vrai que cette idée de cette matière faite à base de cendre, où la cendre vient, enfin la terre vient prendre la couleur de la cendre, mais quand on touche, on n'a pas la cendre sur les doigts. J'aime quand les matériaux ressemblent à quelque chose d'autre. Donc j'ai fait du bronze qui ressemble à du plâtre, de la terre cuite qui ressemble à du bois. J'aime l'idée de trompe-l'œil. Mais sur ce projet-là, c'était aussi cette idée du handicap qu'on dépasse. Et ce que je n'avais pas prévu, c'est encore la sérendipité qui m'a rattrapée, j'ai donné donc ce titre du projet Phénix à cette exposition pour cette histoire ce mythe ancestral et que tout le monde connaît, ce mythe universel de l'oiseau de feu qui renaît de ses cendres. Ce que je ne savais pas, et 3 jours avant l'ouverture de l'expo, une spécialiste de la mythologie vient me voir, alors que c'est elle qui m'interviewe, et me dit « Mais bien sûr, vous avez pensé au mythe du Phénix ». Je lui dis « Oui, l'oiseau de feu ». Elle me dit « Mais non, l'autre mythe ». Quel autre mythe ? Elle parle en fait d'un mythe d'un homme appelé Phénix, qui est coureur de jupons, et sa mère lui demande d'aller séduire la maîtresse de son père. Ce qu'il fait, il réussit. Du coup, son père, excédé, lui crève les yeux. Il va voir Chiron, qui est un hybride centaure entre l'homme et le cheval, et Chiron lui redonne la vue. Et en fait, Phénix est le père spirituel de Achille. C'est lui qui est le maître d'armes de Achille. Donc, il a une place dans la mythologie. J'en avais jamais entendu parler.
D'accord, une résonance de plus, sans oublier évidemment le chat. Phénix the Cat. Alors, c'est pas cette expo, ce projet Phénix, ce n'est pas à voir, mais à découvrir à la Galerie Templon à Paris jusqu'au 23 octobre. Et je rappelle que votre livre aux Amazones arrive, lui, mercredi prochain en librairie et qu'il est édité chez Marabout. Petit pop break dans ce pop-pop-pop, c'est l'heure des pop news.
The French Dispatch de Wes Anderson sortira enfin dans les salles le 27 octobre, mais pour patienter encore, on peut déjà profiter non pas de sa BO, mais de, je cite, son disque d'accompagnement. Anderson a mandaté Jarvis Cocker pour cette mission. L'homme de Sheffield, pour l'occasion, revisite quelques grands hymnes de la chanson française, à commencer par celui-ci. Aline, version Jarvis Cocker, un titre à retrouver tout comme ses versions de Requiem pour un con, Parole Parole ou encore Mon ami la rose sur Chanson d'ennui. C'est le titre de l'album qui sortira lui le 22 octobre.
Il suffisait qu'on en parle hier avec Laurent Lafitte pour être exaucé. La bande-annonce du West Side Story version Spielberg vient d'être dévoilée. Ambiance.
Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you.
I never seen you before. I'm not Puerto Rican.
Is that okay?
Do you want to start World War III?
Sans surprise, les images sont sublimes. On vous met donc la bande-annonce sur le compte Twitter 3615 popopop et le film sortira le 8 décembre.
Surprise, Metronomie vient de dévoiler un EP collaboratif intitulé Posse, 5 titres avec le londonien Brian Nasty, la chanteuse-rappeuse Big Pig, la franco-coréenne Spiltab, le groupe Sorry ou encore le rappeur Pinty pour le titre Half an Inch. Et l'EP Posse de Metronomie et Ami est dispo sur toutes les plateformes légales.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Hey, Charlene Roux. Hey, j'ai crié.
Jarvis Cocker.
Mais oui, ouais, bravo. Mais c'était trop facile,
là,
ça.
C'était l'accent en même temps. Ça.
Prune nourrie dans la suite de Pop, pop, pop. Nous allons parler de pop culture et plus précisément de Mathieu Chédid, de la série Trémé ou encore de Cyril Dion, teaser.
We have lost 50% of the planet's wildlife over the past 50 years.
The flooding of New Orleans was a man-made catastrophe.
Ça, ce sera juste après Respire encore, un morceau de Clara Luciani. Respire encore, Clara Luciani, cet extrait de son dernier album, Cœur. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et ça, c'est le son de Prune Nourri. Pourquoi ce son vous évoque-t-il à ce point la pop culture, Prune ?
Le plaisir du cinéma, juste le fait de se glisser...
Les Esquimaux, peut-être ?
Aussi les Esquimaux, mais j'adore ce petit Jean Mineur et son petit coup de hache, là. Je pense que la cible m'a inspiré pour le bon marché.
Prune Nourri, nous allons rester un peu dans cette pop culture. Il est 16h45, c'est l'heure de votre pop liste. Un livre, un film, une musique, une série, tout ce que vous regardez, écoutez, lisez en ce moment, voilà ce que nous voulons connaître. Alors Prune, le livre que vous lisez en ce moment même, c'est Une farouche liberté de Gisèle Halimi. Charline, Une farouche liberté, c'est drôle, mais c'est exactement ce que pourrait nous inspirer Prune Nourri. Halimi qui a donc nourri, si je puis dire.
Tout à fait, Antoine. Gisèle Halimi revient avec son amie Annick Cogent sur certains épisodes marquants de son parcours et parmi les multiples messages adressés aux femmes, ne pas baisser la garde, rester solidaire et vigilante et aux plus jeunes aussi de prendre le relais dans le combat, faut-il le rappeler, essentiel pour l'égalité.
Prune, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Alors, des lignes que vous avez sélectionnées, mais qui sont très bien choisies. Une femme ne doit pas faire de bruit, ne pas déranger, ne pas se faire remarquer, ne pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire. Ça, c'est réservé aux hommes. Mais rebellez-vous, pensez enfin à vous, à ce qui vous plaît.
Alors, pourquoi avoir choisi ce livre de Gisèle Halimi ?
Parce que je l'ai lu un peu par hasard, que j'ai aimé le titre, que je ne connaissais pas bien l'histoire de cette femme, mais que bien sûr son nom faisait partie du panthéon commun en France, et que voilà, j'ai été intriguée et que j'ai été happée dès les premières pages par sa force et par son courage et par le fait qu'elle venait de rien et qu'elle s'est battue contre vents et marées, contre sa famille et qu'elle s'est pas arrêtée à être avocate, qu'elle s'est pas arrêtée à défendre quelques personnes, mais qu'elle a aussi voulu le faire dans le temps, c'est-à-dire faire changer des lois à travers ça, faire jurisprudence. Et ça, je trouve ça incroyable.
Très bien. Une farouche liberté de Gisèle Halimi. Prune, le film que vous attendez en ce moment, c'est Animal de Cyril Dion, dont la sortie est prévue en novembre. Animal, on est mal, chantait Gérard Manset. Ça n'a jamais été aussi vrai, Charline.
Bella et Vipulan ont 16 ans et sont à raison extrêmement préoccupés. Changement climatique, sixième extinction de masse des espèces. D'ici 50 ans, leur monde et le nôtre pourraient devenir inhabitables. Ils ont beau alerter, rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème, notre relation au monde vivant.
We have lost 50% of the planet's wildlife over the past 50 years.
It's absolutely clear that the pursuit of economic growth means the destruction of the natural world.
The hardest thing, though, is how do we get other people to realize that?
If we disappear tomorrow, do you think the ants would notice we were missing?
No.
No, but if the ants disappear, life as we know it would end. And so we really need these tiny creatures.
Prune Nourry, pourquoi conseillez-vous d'aller voir plutôt Animal de Cyril Dion que, je ne sais pas moi, Fast and Furious 24
J'ai eu la chance de le voir à Cannes et de pouvoir découvrir ce film qui, selon moi, dénonce justement une forme de déséquilibre hallucinant dont on est clairement...
Tous victimes.
Tous victimes, mais aussi tous bourreaux.
Ouais.
C'est aussi sur la jeune génération, sur une réflexion, mais qui est intéressante parce que ils commencent trop radicaux, ces deux jeunes, et en fait, ils finissent par se rendre compte au fil du film que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc justement, le fameux Star Wars de George Lucas, il n'y a pas la lumière et l'obscurité, il y a quand même en fait un Jedi qui est devenu Dark Vador. Donc c'est plus complexe que ça, il n'y a pas de vrai méchant. On est tout en nous, un mélange de beaucoup de choses, et on peut passer très facilement du côté obscur. Et Animal, c'est sur notre rapport aussi à la surconsommation, à la surproduction. Il y a un moment étonnant qui m'a vraiment marqué, qui est un producteur de lapins, un éleveur de lapins, et qui en fait essaye de leur expliquer que oui, c'est normal, il y en a qui meurent tous les jours, ces petites choses là, et que c'est pas grave, il les jette, il les manipule sans cœur, mais en fait il a été obligé de se mettre dans ce format là, et que en fait il gagne 600 euros par mois pour ce qu'il fait, et que il y a une logique pas du tout logique là-dedans, et qu'en fait il y a tellement de choses à repenser que ce film nous amène à repenser ces choses-là.
Animal de Cyril Dion, ce sera pour le mois de novembre. Prune, la série que vous binge-watchez, comme dit Ghislain Fontanus, en ce moment, c'est Trémé. C'est une série américaine créée par David Simonet et Eric Overmyer. David Simon, pardon. Charline, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a Elvis Costello dans cette série et que ça suffit à mon bonheur.
Et j'ajouterais déséquilibre encore d'une certaine manière et préoccupation environnementale. Toujours, la série suit des musiciens qui tentent de reconstruire leur vie dans la Nouvelle-Orléans post-ouragan Katrina.
Are you saying this was a natural disaster, pure and simple?
A natural disaster.
Well, a hurricane is.
What hit the Mississippi Gulf Coast was a natural disaster, a hurricane, pure and simple. The flooding of New Orleans was a man-made catastrophe, a federal fuck-up of epic proportions and decades in the making.
Ça, c'est une chouette série. Vous êtes sensible autant que moi à la présence d'Elvis Costello ou c'est la série elle-même qui vous a séduit?
Moi, c'est la Nouvelle-Orléans. C'est John Baptiste. Ça fait donc 10 ans que je vis à New York et j'ai eu la chance de le rencontrer là-bas et je connaissais pas grand-chose de la Nouvelle-Orléans. Et il m'a fait découvrir sa culture et puis amené là-bas à un moment donné aussi. Et en fait, c'est ce mélange de musique partout, alors que la pauvreté est là. C'est ce mélange aussi de mélange de culture. C'est une ville où je pourrais complètement vivre comme à New York. C'est ça qui me plaît aussi là-bas, ce mélange de culture. Et John Baptiste, en plus, c'est quelqu'un qui amène les foules vraiment derrière lui de la manière la plus simple qui soit. Il a joué pour deux de mes événements, dont l'Amazon que j'ai faite à New York sur une barge, un bateau au milieu de la Hudson River pour fêter la fin des traitements. Et donc c'est quelqu'un de très cher pour moi et qui en plus de ça incarne de la meilleure manière la Nouvelle-Orléans.
Prune Nourry, terminons cette pop liste avec le morceau que vous avez choisi. Et ce morceau, c'est l'Amazon, on y revient. Hérogène de M et IBI. C'est une chanson inspirée, tiens, par votre œuvre. Avant de l'écouter, dites-moi deux mots du morceau.
On l'a écrit avec Daniel Pénac, ce morceau. Il m'a dit au tout début, pas question, moi j'ai jamais écrit de chanson, ça fait 40 ans qu'on me demande et je ne sais pas, je ne peux pas, je ne veux pas. Et en fait, je l'ai amené dans le studio de Mathieu Chédid juste pour déjeuner, soi-disant, parce que je voulais les faire se rencontrer, parce que c'est deux hommes exceptionnels. Et en fait, la magie Mathieu a fonctionné, parce qu'il est tellement, tellement ouvert, tellement généreux que, en fait, de fil en aiguille, de corde en guitare, on s'est retrouvés sur un coin de table à écrire ça. Et c'est vraiment le point de vue. Je voulais amener aussi les hommes dans le cancer du sein, parce qu'en fait, c'est pas un cancer du sein qui concerne que les femmes. Déjà, il y a 0,2% des hommes à qui ça arrive, et c'était le cas de Daniel Pénac, qui l'a cru pendant un temps. Au moment où il découvrait mon film au cinéma, c'est ce qui nous a rapprochés. Et aussi parce que toutes ces femmes qui passent à travers ça, il y a des hommes qui les soutiennent. Moi, ça a été mon cas, et il y a aussi des hommes qui quittent leurs femmes. Donc c'était beaucoup trop. Et c'était aussi l'idée de dire que voilà, à toutes ces femmes, que malgré ces cicatrices, malgré la perte des cheveux, malgré tous ces attributs qu'on peut considérer comme féminins, on reste profondément une femme et profondément sensuelle à travers la maladie.
J'ai promis qu'on allait écouter cette chanson. Je tiens toujours mes promesses. Voici le morceau en question, choisi par Prune Nourry, notre invitée du jour.
Symbole sur ta poitrine de guerrière désarmée, cœur de cible en ton sein touché, si jeune, sidéré, incompréhensible, d'où vient la flèche qui est l'archer. Gêne, ton cœur blessé, ta cicatrice ne change rien à ce que j'aime. Ton ADN, mon Éden, Amazon et Angèle, Amazon et érotique, mon Amazon, tu es la même. Bataille enragée, tant et tant de poitrines, tour à tour transpercées. Ne vous laissez pas mourir, laissez-nous vous aimer. Tant de cordes à votre arc, je serai sa saint unique, Amazon héroïque. À mes yeux, vous n'avez pas changé.
C'était l'Amazone érogène, le morceau de Prune Nourry, choisi par Prune Nourry. Écoutez avec nous, par Prune Nourry, invitée aujourd'hui de Pop Pop Pop. Merci Prune d'avoir accepté notre invitation. Le projet Phoenix, c'est notre coup de cœur. C'est à découvrir à la Galerie Templon à Paris jusqu'au 23 octobre. Pas de tournée prévue pour l'instant ?
Pour l'instant.
Mais j'espère que ça va venir. Et je rappelle également, Prune Nourry, que votre livre aux Amazones est lui aussi recommandé par Pop 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 et il arrive mercredi prochain en librairie, un livre édité par Marabout. Merci encore.
Merci Antoine, merci,
merci
Charline.
Merci Charline et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, pas de Pop Pop Pop, mais un Pop Pop Podcast de votre nouvelle émission du vendredi qui s'intéresse, comme son nom l'indique, au podcast. Et avec nous demain, la créatrice du podcast Homicide, Caroline Nogueras. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.